Bonjour et bienvenue dans Et si c'était vrai ? Et si c'était vrai ? Une discussion avec Dominique Duvivier, magicien de son état. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Alors, on est très content de vous retrouver. Et je vous propose de continuer la conversation qu'on avait initiée lors de l'épisode précédent, un épisode d'introduction, le numéro 1. Et dans l'épisode précédent, on parlait de la flamme de la magie, comment on conserve la flamme. Et puis, vous aviez abordé un élément qui m'a paru être intéressant de creuser un petit peu, c'est l'explication d'un tour. Vous disiez que lors de votre métier, vous étiez amené à expliquer un tour à des profanes, on va dire, qui auront l'occasion de présenter ce même tour à des collègues, des amis. Et du coup, je me suis dit, mais c'est ce que veulent beaucoup de spectateurs quand on leur fait un tour de magie. Bien sûr, ils sont étonnés, mais ce qu'ils veulent aussi, c'est comprendre comment ça marche. Est-ce que vous pensez que c'est un service à leur rendre que de tomber dans le piège, en quelque sorte, du « comment ça marche, je vais vous expliquer ».
Ben moi, je crois à 100% que non.
Alors pourquoi ?
Ben, parce que si le spectateur veut savoir comment ça marche, c'est qu'il croit, mais sincèrement, qu'une fois qu'on lui aura donné l'explication, du coup, ça effacera tous ses doutes sur ce qu'il vient de vivre.
Oui.
Alors que c'est évidemment faux à 100%. Ça va peut-être le rasséréner à 10%. Ou il va avoir peut-être l'illusion à 100% qu'on lui a répondu. Sauf que on vient de lui créer une mise en scène, un personnage, un jeu de comédien, une intrigue. On lui a fait vivre une histoire forte qui était magique au point qu'elle s'est réalisée. Alors, on va lui montrer un bout de cette réalisation par le truc, par l'explication. Mais l'explication n'est qu'un bout, un peu comme l'iceberg. On voit un bout, mais c'est loin d'être la majorité de l'iceberg.
Absolument.
Sauf qu'il va croire qu'il sait ce que c'est. Et à partir de là, il va croire que la magie est quelque chose de simple. Alors que la magie est quelque chose de très complexe. Même si on peut, comme je le disais dans l'émission précédente, apprendre des tours faciles qui sont forts. Mais faire un effet fort, c'est un peu comme avoir un gadget. C'est comme si tu étais le seul possesseur d'un iPhone, parce que pour l'instant, personne n'en possède encore. Il n'y a personne qui a un téléphone mobile. Les gens en sont encore au téléphone fixe. Toi, t'arrives avec ton téléphone mobile, tout le monde va être « Oh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Tu vas faire un numéro, ils vont écouter « Oh, c'est dingue !» Ils vont devenir fous, mais toi, tu y es pour rien.
Oui.
Tu vois, il se trouve que tu bénéficies de cette technologie incroyable qu'il n'y a que toi qui possède.
Absolument.
Mais n'empêche que t'es pas du tout plus avancé. T'es simplement le détenteur d'un bidule.
Oui.
Mais qui te dépasse toi-même. Tu sais même pas comment ça marche. Oui. Tu sais qu'on appuie sur le bouton, c'est tout. D'accord ? Eh ben, expliquer un tour, ça revient un petit peu à ça. Donc c'est loin d'être quelque chose qui peut l'aider. Je dirais même, c'est ça qui peut créer la base de son état aigri, si jamais il voulait persévérer dans ce sens-là. Parce qu'il va toujours croire que la magie, c'est facile. Et il va presque détester des artistes professionnels quand ils vont voir leur aisance, même s'ils utilisent des choses, des bouts de choses qu'ils connaissent ou qu'ils croient connaître, parce que bien sûr qu'il y a des millions d'autres qualités pour arriver à mener à bien un spectacle.
Ok. Donc expliquer un tour, ce n'est certainement pas rendre service au spectateur, et c'est encore moins rendre service à l'art magique. On entend l'explication pour l'explication.
Bien
même
sûr.
Si ça part d'un bon sentiment de savoir de répondre à la curiosité du spectateur qui, parfois, peuvent être insistants. Mais alors, du coup, moi, je rebondis sur ce qu'on disait la dernière fois. Pourtant, vous, vous expliquer des tours à des spectateurs, mais la subtilité, c'est qu'ils vont devoir le faire et de par là même, vraisemblablement, se rendre compte que c'est bien beau de connaître, entre guillemets, le truc, mais le faire devant des gens, c'est une autre paire de manches.
Tout à fait. C'est d'ailleurs exactement ce que tu dis, en plein dans le genre de séminaire que je fais avec Alexandra, ma fille, pour des entreprises notamment. À savoir, on leur explique un tour, après ils doivent le scénariser eux-mêmes, ils doivent le mettre en scène eux-mêmes, ils doivent trouver des idées pour le présenter, même si on les a aidés un peu, maintenant on les laisse le faire. Et après, ils vont donc le faire devant leurs collègues, qui eux-mêmes ont un tour différent à faire. Donc, tu vois, il y a une espèce d'interaction comme ça. Et à la fin de cette session, nous allons leur faire, Alexandra et moi, un spectacle de 30 minutes pour terminer la session du jour. D'accord ? Et là, il se passe un phénomène, je dirais, à 100% toujours le même. C'est que là, pour la première fois, les gens nous parlent de notre spectacle pas de la même façon que quand les gens viennent voir un spectacle normalement.
Oui.
Parce que là, ils se sont rendus compte qu'avec quelque chose de très simple, de très basique, l'immense complexité que ça a représenté pour eux de la mettre en scène et de l'effectuer. Donc quand ils nous voient faire des choses qui sont 10 000 fois plus compliquées, ils s'en rendent bien compte. Là, ils se rendent compte à quel point il faut beaucoup de travail, beaucoup de talent, beaucoup de patience, beaucoup d'osmose entre elle et moi pour réaliser ce qu'on fait. Donc, absolument, au contraire, là, ça leur permet de se rendre compte et peut-être de donner des lettres de noblesse à la magie encore plus.
Exactement. Alors, c'est amusant parce qu'il n'a pas fallu longtemps quand même. Il a fallu une émission, un quart à peine, pour que vous citiez le mot « mise en scène ». Ça, c'est quelque chose qui vous caractérise, qui, je pense, devrait caractériser la magie en règle générale, c'est la mise en scène. Alors, on en parlera longuement, parce que vous me disiez un tour, c'est pas un tour, et là, vous venez d'illustrer d'une façon parfaite que c'est tout un univers autour du tour, et que le tour en lui-même n'est pas grand-chose, finalement. Mais alors, avant d'arriver dans le détail, dans ce genre de détail, j'aimerais qu'on aborde sur la naissance d'une passion. La magie, c'est votre passion. Vous avez commencé à 8 ans et vous en êtes encore aujourd'hui à être aussi passionné qu'à 8 ans. Donc, comment on passe de la simple passion, du passe-temps aussi, au métier ? Vous, j'ai l'impression, hein, vous me dites si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de transition en fait. Que c'était un parcours du tout au tout. On est passé de la passion parce qu'on n'avait pas le droit de travailler parce qu'on était enfant, et puis on est arrivé au métier. Je me trompe ou...
Non, tu ne te trompes pas vraiment. C'est vrai que ça s'est un peu passé comme ça. Encore une fois, sans revenir à la famille et à ma femme, je suis quand même forcé d'y revenir une seconde, dans le sens que si tu n'as pas la femme merveilleuse que j'ai rencontrée très tôt, puisque j'ai rencontré, j'avais 19 ans, qui m'a tout de suite épaulé, aimé et aidé, notamment à pouvoir aller dans le sens qui était le mien, c'est-à-dire la magie, mais qui est loin d'être un truc qu'on t'en rend à la fin d'un cycle d'école, oui. Parce qu'il n'y a pas d'école de magie dans ce sens-là. Ça veut dire que j'avais aucune formation, et grâce à elle, j'ai pu m'entraîner, travailler, réfléchir, et très vite même donner des cours. Donc ça, c'est grâce à elle à 100%, parce que si je n'avais pas pu arriver jusqu'à donner des cours, c'est-à-dire déjà à devenir magicien moi-même, rien n'aurait pu être possible.
Oui.
Et après, tu vas voir que je réponds à ta question, parce que j'ai donné des cours, et un jour, il y a un élève, je ne saurais même pas te dire lequel, qui m'a dit « Mais c'est bien gentil, vous me montrez telle technique, tel mouvement, tel effet, tel machin, tel truc. » Mais là, moi, je ne parlais pas de présentation à cette époque-là.
Oui.
Et il me dit « Mais comment vous présentez ce tour-là ? » Et le problème, c'est qu'au moment où il me pose la question, moi, je n'ai pas présenté ce tour. Ni quelque part aucun autre, puisque moi ma formation c'est magie pour magicien à cette époque, j'ai inventé un certain nombre de tours, j'ai, grâce à ça, écrit un certain nombre de bouclettes et de revues, et je commence à gagner un peu ma vie, mais je commence. Hein. Mais je n'ai pas encore exploré, on va dire, les médias et le travail sur le terrain.
Oui.
Pour moi, c'est clair que ça doit se faire comme je fais. Mais j'en ai pas la preuve. La preuve, c'est le public.
Absolument.
Et j'ai pas le temps de parler du public. Le seul public que j'ai, c'est ma femme. Ouais. À qui je monte mon tour et je lui dis qu'est-ce que t'en penses. Puis si je vois sa tête qui est bonne, je lui dis tiens, c'est bien. Si je vois sa tête pas bonne, je dis le tour, je le fous à la poubelle. Voilà. Ça va pas plus loin. Mm-hmm. J'ai pas le temps de faire plus. Et lorsque ce client, cet élève me dit mais comment vous faites pour présenter ce tour? Bah, je dis, bah, comme ça. Et là, je me lance en improvisant un texte, une mise en scène, et tac, je lui fais le tour comme si j'avais eu un spectateur en face de moi. En l'occurrence, c'était lui.
Oui.
Donc, tu vois, je me suis retrouvé piégé et en même temps pas piégé parce que je suis sûr qu'il a pas pu se rendre compte que j'étais clac, je me suis enclenché et top, je lui ai fait le tour. Et après que le type soit parti, j'ai réfléchi dans mon coin et je me suis dit, bah tiens, c'est pas mal ce que j'ai dit et ce que j'ai fait. Mais j'ai découvert ce que j'ai dit et ce que j'ai fait. Et j'ai commencé à continuer de le dire et de le réexpliquer et de le refaire et de le redire aux autres élèves de la journée et des jours suivants. Et là, sans le faire exprès, je me suis rendu compte que j'avais trouvé une façon de présenter qui me semblait être bonne. D'accord. Et après seulement, j'ai été la tester dans des restaurants, dans des endroits, et c'est là où petit à petit le pied s'est mis à l'étrier, et j'ai commencé à être engagé par un imprésario, etc. etc. Mais ce qui est fou, c'est que ça s'est passé comme ça.
Ouais. Donc en clair, très concrètement, vous aviez besoin de gagner votre vie,
oui.
Et donc pourquoi pas faire des cours, du coup. Donc c'est très basique comme besoin au départ.
Tout à fait.
Et alors, est-ce qu'à cette époque... Vous diriez que vous étiez déjà magicien. Est-ce que, pour vous, un magicien, c'est pas quelqu'un qui se confronte au public ?
Évidemment que, avec le recul et l'expérience que j'ai acquise entre-temps, je pense pas que ce que je viens de te décrire s'appelle un magicien. Simplement, moi, j'étais ce que j'étais et je croyais l'être.
Absolument.
Hein ? Mais c'est sûr que non, un magicien, c'est pas justement quelqu'un qui fait des tours à ses copains magiciens. Non, c'est juste parce que c'est pas comme ça que ça marche. Mais le hasard a fait que, en faisant ce que je viens de t'expliquer, j'avais, moi, trouvé, sans m'en rendre compte, le bon ton, le bon tempo pour le vrai public, et non pas pour le public de magicien.
Oui.
C'est ça qui est incroyable, tu vois, parce que sans l'avoir travaillé, même si j'avais dû le bosser intérieurement sans m'en rendre compte vraiment, j'avais trouvé le système de base du personnage que après j'ai pu incarner tout au long des années suivantes. Mais je pense pas que faire des tours avec des techniques simplement pour montrer qu'on sait le faire et que l'autre ne sait pas le faire, je ne crois pas que ça s'appelle magicien.
D'accord.
Non, ça s'appelle un technicien, ça s'appelle un jongleur éventuellement, mais pas un magicien.
Alors donc, ça commence avec les cours, c'est ensuite une confrontation avec le public, mais c'est aussi, des années durant, je pense, il me semble enfin, beaucoup de sacrifices.
Ah oui ?
Sacrifices en temps, sacrifice en argent aussi, parce que aujourd'hui, travailler dans le spectacle et être artiste, c'est pas forcément simple tout de suite de gagner sa vie. Donc il faut une abnégation absolument incroyable pour pas décrocher. Comment vous avez fait pour pas décrocher ?
Je suis un malade, dans le sens que... Non mais c'est vrai, j'étais le genre à donner à peu près 12 heures de cours par jour, et en moyenne, je dormais 4 heures par nuit. Donc après, t'as qu'à prendre quelques minutes pour me laver. C'est comme ça que j'ai laissé pousser la barbe, parce que ça me prenait trop de temps de me raser. Donc c'est pour ça que je me suis laissé pousser la barbe. C'est comme ça que je me suis laissé pousser les cheveux, parce que ça m'emmerdait d'aller chez le coiffeur. Donc la douche, lavage minimum, donc, et puis manger pour vivre et non pas vivre pour manger, puisqu'à l'époque, pendant très longtemps, moi c'était beefsteak, frites, salade et éventuellement spaghetti, un bout de fromage, point. Et rien d'autre me plaisait. Ça veut dire qu'il fallait qu'on me nourrisse avec ce genre de choses, point. Et puis une fois que j'avais mangé, ben je donnais mes cours. Une fois que mes cours étaient finis, j'inventais X tours que je fabriquais avant de me coucher. Et puis une fois que j'avais fini, que je mettais sous presse mes trucs, souvent c'était des tours de cartes à l'époque, et ben là je me sentais avoir rempli mon quota de la journée. Et puis ben, le lendemain, je me levais, hop, cours, et hop, c'était reparti. Des fois la nuit, on travaillait avec ma femme, qui la pauvre travaillait elle le jour, pour qu'elle me tape mes textes des bouquins ou des revues. Et puis on renéotypait avec une Gagstetner dans l'appartement, donc ça devenait un potin du diable avec les intercalaires, tu sais, pour faire les recto verso, après qu'on a vécu ça, tu vois. On produisait nous-mêmes le truc. Et puis on faisait les envois, et puis on faisait tout le temps. Et on travaillait 7 jours sur 7, et j'ai pas levé quasiment la tête de ma table pendant 10 ans.
Ouais. Pour arriver derrière la table du double fond.
Voilà. Ouais. C'est-à-dire que là, ce que je te dis, c'est vrai, et en même temps, c'est un résumé court, hein, parce que j'ai en même temps commencé à faire des spectacles, j'ai un impresario qui s'occupait de moi, puis petit à petit, je suis devenu son chouchou, son poulain. J'ai fait donc pas mal de représentations, mais ça, c'était le soir.
Oui.
C'est-à-dire quand j'avais donc un spectacle à faire, et ben j'arrêtais de donner des cours. Mais sinon, je donnais des cours, le dîner, cours, et après je travaillais. Spectacle si j'en avais un, écriture quand j'avais 3 minutes entre les tours que j'inventais. Et puis ça a été comme ça de 72-73 jusqu'à 84-85.
D'accord.
Tu vois ? À peu près vers 85-86, j'ai commencé à me lasser de faire ce que j'appelais des clip-poops, c'est-à-dire des tours à des tables, mais oui, juste 7 minutes ou 8 minutes, parce que quand tu fais 10 ou 15 tables, t'as pas le temps matériel de faire plus que 7 minutes ou 8.
Oui.
Et je commençais à en avoir marre, tu vois, d'amener la sauce, si je puis dire. Enfin, moi, j'avais une expression que je t'ordonne. Ça me donnait un peu l'impression de séduire une jeune femme. Elle avait envie de moi. Je commençais à lui faire un bisou sur les lèvres. Et après, c'était le mec sur scène qui la baisait, quoi.
Oui, d'accord.
Tu vois ? Donc moi, je commençais à en avoir marre.
Ouais.
Donc, j'ai commencé à parler à mon impresario dans les années 86-87 que ça serait peut-être une bonne idée de faire un lieu magique où on pourrait exprimer le close-up, mais vraiment avec ses lettres de noblesse. Et il m'a dit, mais enfin, t'es fou, ça n'existe pas. Ben justement, pour lui, justement, c'était pas bon. Alors que pour moi, justement, c'est une bonne idée. Et puis, il n'a pas voulu, et du coup, je l'ai fait moi-même. Et puis, j'ai trouvé un banquier, et puis j'ai fait le truc. Et en 88, j'ai ouvert le double fond.
Voilà, donc en fait, le double fond est né d'une espèce de frustration,
tout à fait,
quasiment sexuelle, on va dire.
Exactement.
Qui fait qu'il a fallu que vous trouviez une solution, et la solution, vous l'avez trouvée par vous-même, en fait.
Oui.
Parce que vous avez été obligé,
oui.
Personne ne voulait vous aider à le faire. Bon, deuxième émission, ça passe très très vite. Deuxième émission, deuxième conclusion. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler du double fond, bien entendu. Et pour le moment, on ferme la page du « Si c'était vrai » numéro 2, et on se retrouve très prochainement pour le numéro 3.